In 500 meters, go straight, and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. C'est Entre les pages qui démarre pour ce 178e épisode. Pénultième opus de l'émission qui parle du monde des livres en Anjou, encore de la poésie. C'est important la poésie. Même si elle est peu exposée dans les grands médias, qu'ils soient de papier, télévisuel ou numérique, il suffit de gratter un peu pour se rendre compte qu'il y a pléthore de maisons d'édition, de podcasts, de performances, et derrière d'autrices et d'auteurs. La richesse est là. Beaucoup nous surprennent par ce qu'elles et ils réussissent à construire des propositions étonnantes, à fabriquer avec ces 26 lettres, auxquelles il faut ajouter les signes de ponctuation et les blancs, qu'ils sont importants les blancs, à fabriquer, dis-je, de l'émotion, notre carburant de vie. Alors oui, aujourd'hui encore de la poésie. Pour cela, j'accueille deux invités, Selima Atala-Chetaoui et Béatrice Machet, et vous allez le comprendre, il nous faut de la poésie. Bonjour, Selima Atala-Chetaoui.
Bonjour Luc.
Nous nous sommes déjà rencontrés, c'était au festival Les Préférences au mois de septembre dernier. Je vous avais enregistré dans votre lecture sur une toux, par un temps magnifique. Je n'avais pu en diffuser qu'une partie, le bruit du moteur pour remonter le courant avait parasité la fin de l'enregistrement. Et puis je vous avais entendu lire sur la terrasse de la maison Julien Gratte. Vous gardez quel souvenir de ce festival ?
C'était vraiment une super journée. Il avait effectivement fait très très beau, ce qui était un peu inespéré pour une fin de mois de septembre. Il y avait eu des performances assez incroyables, notamment, je me rappelle très bien, d'une performance de Marion Aubert et d'une autre de son nom m'échappe, qui était belge, et qui avait une performance sur une mouche enfermée dans un cockpit, et toute l'histoire était racontée depuis le point de vue de cette mouche. Et c'était vraiment super, parce que c'était un super public, très attentif, j'avais jamais lu sur une toux.
Ah bah oui, c'est une expérience, hein. Mais il faut venir plus souvent en Anjou pour pouvoir bénéficier de ce cadre idyllique. Alors, c'est vrai, moi j'ai participé au même festival, mais il y a plusieurs années, mais il y avait grand vent et de la pluie. Et l'auteur, Mathias Sénard qui lisait, se débattait avec ses feuilles complètement trempées pour continuer de lire, et c'était magique, il faisait froid. Mais bon, voilà, vous avez bénéficié d'un temps idéal. Vous vous affirmez comme non-binaire, comme Martin Page, autre résident reçu récemment. C'est important cette affirmation en 2026 ?
Je pense que c'est important à toute époque et peut-être particulièrement en 2026 parce que à la fois les personnes dont le genre ne rentre pas dans les catégories binaires sont plus visibles que jamais. Et je pense qu'il y a en même temps une espèce de... On est très concentré sur cette dissidence du genre, là où en fait elle ne concerne quand même qu'une frange de la population assez faible et que finalement jouer avec son genre, même si... on ne se considère pas comme étant non-binaire, même si on n'est pas non-binaire, même si on n'est pas trans, c'est plus confortable pour tout le monde. Et c'est vraiment quelque chose, les normes ont changé au fur et à mesure du temps, selon les époques. On vit à une période où elles sont peut-être un peu plus fluides qu'au 19e ou au début du 20e siècle, mais beaucoup moins fluides que ça a pu l'être, par exemple, au Moyen-Âge. Il y a Clovis Maillet qui en parle beaucoup mieux que moi. Donc en fait, être libre d'être qui on est comme on le souhaite, je pense que c'est important.
Alors, pour moi, lecteur et aussi intervieweur, c'est une complexité salutaire, puisque ça oblige à repenser le monde en dehors de cette foutue langue française pour laquelle le masculin l'emporte toujours sur le féminin. Par contre, mon correcteur d'orthographe, il est devenu fou, hein, parce que il faut la non-binarité, ça s'écrit aussi, si on veut être véritablement au cœur de la question. Comment vous réglez-vous ce problème technique quand vous écrivez?
En fait, moi, j'utilise des typographies non binaires qui sont disponibles gratuitement en ligne et qui ont été faites notamment par un collectif qui s'appelle Bye Bye Binary. Et en fait, n'importe qui peut télécharger ces typographies et les installer sur son document Word sous réserve de mentionner l'existence du collectif, enfin le collectif quand on le fait. Il y a plusieurs choix. Et en fait, ils ont fabriqué, ce collectif a fabriqué des caractères, des néo-caractères, des ligatures pour justement que ça soit plus fluide à l'écriture et à la lecture. Et en fait, votre correcteur automatique corrige automatiquement.
Bon, ben je prends note. Je mettrai d'ailleurs ça en référence sur la page du site, parce que c'est toujours intéressant de voir le monde bouger, de se rendre compte que ce n'est pas impossible, quoi qu'en dise l'Académie, et que donc, on peut rendre les choses effectivement fluides.
Complètement, et puis plus on le fait, en fait, plus elles vont l'être, parce qu'on est sur un laboratoire d'expérimentation à l'heure actuelle, mais si ça devient quelque chose de naturel, on va finir par trouver des choses qui sont beaucoup plus évidentes que certains balbutiements qui, c'est vrai, aujourd'hui, peuvent être un peu plus compliqués à prononcer que d'autres dans une langue aussi binaire que l'est le français.
Vous êtes poète, mais vous êtes aussi beaucoup d'autres personnes. Et je dis ça, cette formulation à dessein, vous êtes performeur, chercheur, et même DJ, je crois. Toutes ces identités vous installent dans une forme de malléabilité et une fluidité entre les places. Ça, c'est une nouvelle puissance.
Je ne sais pas si c'est une nouvelle puissance. Moi, c'est des choses dans lesquelles je me suis retrouvée assez naturellement, dans le sens où dès que j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à dire mes textes dans des scènes ouvertes. Donc très vite, l'écriture et la scène sont devenues complètement liées pour moi, dans la mesure où je terminais mes textes pour les dire sur scène. Donc la scène devenait comme une espèce de deadline dont j'avais besoin pour finir un texte. Et puis le fait de les dire sur scène faisait que je me rendais compte de ce qui marchait, de ce qui marchait pas. Donc ça me faisait retravailler mes textes, je travaille mes textes à voix haute. Donc l'usage de la voix et du son, c'est quelque chose qui est très très naturel pour moi. L'aspect de la recherche, c'est parce que j'ai été très longtemps à l'université, j'ai fini par la quitter juin dernier, mais en fait c'est un endroit où j'ai été pendant plus de 12 ans, où j'ai poursuivi de longues études, j'ai commencé un doctorat que j'ai jamais terminé, j'ai même été prof à la fac.
Donc cette
recherche m'a imprégnée complètement, mais c'est pas finalement peut-être pas l'endroit, en tout cas peut-être l'endroit de l'écriture universitaire est finalement pas celui où je me sens le plus à l'aise, mais c'est sûr que ça a imprégné ma manière de faire de la recherche, même pour l'écriture, et ma manière d'aborder un sujet est certainement imprégnée par ça. Et puis sur l'aspect DJ, je ne sais pas si on peut dire que je suis DJ, ça m'arrive j'utilise des platines pour mes propres performances, ça m'arrive exceptionnellement d'accompagner d'autres poètes, ça m'arrive assez rarement de mixer juste en soirée comme ça, mais je fais de la musique dans le sens où j'ai sorti un single il y a quelques mois et je suis en train de travailler sur un EP, mais je me positionne plus en tant que j'assiste la composition, je suis au studio avec les musiciens avec qui je travaille qui sont formidables, mais moi j'ai pas suffisamment les compétences techniques pour me considérer comme vraiment musicienne seule. Je peux faire des compositions sonores pour des performances un peu plus expérimentales, mais c'est pas encore de la musique.
Non, mais je trouvais qu'il n'y avait pas assez de choses sur votre carte de visite, donc j'ai recollé ça dessus. Quoi. En fait, si j'ai mis ça, c'est parce que j'ai dû voir une photo où on vous voit derrière des platines.
Oui, ça m'arrive d'être derrière des platines. Bon, vous n'êtes pas trompé.
Donc, je ne me suis pas trompé. Ouf, sauvé. Vous avez publié Au Pieu, un long poème. En fait, moi, je l'ai lu comme un long texte au titre provoquant. En fait, avec un mot, le mot pieu, en fait, qu'un mot d'argot plutôt ancien, enfin qui nous rebalance dans les années 60, peut-être un peu. Hein. Ce pieu, c'est un lieu refuge ?
C'est un lieu qui est refuge souvent, oui. Je pense que c'est un lieu dont moi, en tout cas, dans lequel j'ai besoin de passer beaucoup de temps pour me remettre du monde, parce que je suis quelqu'un qui, à la fois, suis extrêmement sociable et j'adore être en mouvement et j'adore avoir une vie trépidante, mais j'ai des élans parfois qui me dépassent. Et j'ai besoin de repos. Et ça, je l'apprends de plus en plus en vieillissant, même si je suis encore jeune. Mais j'apprends que j'ai besoin de ce refuge et qu'il faut que j'apprenne à y aller avant d'être épuisée et que ça devienne un peu une prison. Parce que j'ai eu des périodes dans ma vie où je n'ai pas su me reposer à temps. Et puis après, j'ai fait des burn-out ou des épisodes dépressifs qui ont duré des mois. Donc maintenant, je l'utilise vraiment comme un refuge et comme une ressource que je mobilise consciemment.
Malgré les miettes de pain ?
Malgré les miettes de pain, oui.
Au pieu, est-ce que c'est un slogan ou un mot d'ordre ?
Je pense que c'est plus un mot d'ordre qu'un slogan. Je ne sais pas d'où est venu ce titre. Je sais qu'à un moment, le manuscrit avait ce titre et je ne sais pas comment je l'ai trouvé. Je pense que oui, c'est un mot d'ordre. C'est vraiment une espèce... Je pense qu'on vit à une époque où on est dans une société hyper capitaliste. Moi, j'appelle ça le capitalisme tardif, où en fait, on a des injonctions à tout faire dans la performance, y compris... je ne sais pas, si on fait du sport maintenant, il faut qu'on ait des super temps quand on court, des super qu'on soulève toujours plus que la semaine d'avant, ou pas juste faire du sport parce que ça nous fait du bien et qu'on est content. Toutes les activités qu'on entreprend, on doit se dépasser. Dans le travail, on doit se dépasser. Et en fait, nous, on n'est pas obligé. On peut simplement courir parce que ça nous fait plaisir et s'en foutre complètement du temps, aller se balader et aller se reposer quand on en a besoin, même si la société passe son temps à nous dire qu'il faut performer partout et tout le temps. Donc, mot d'ordre.
Mot d'ordre. Donc, c'est bien. Moi, je trouve ça... Je vois bien une manifestation avec des banderoles au pied. Enfin, je le sens. Je le sens bien, ce truc, moi. J'ai lu, et contrairement aux articles que j'ai lus, qui ont été publiés sur ce recueil, en fait, moi, dans ce texte-là, et je ne parle pas de recueil, c'est vraiment... Je parle d'un texte dans son intégralité. Moi, j'ai lu du désarroi. J'ai lu l'effet de la procrastination induite par les injonctions du monde. Est-ce que je me trompe ?
Non, non, vous ne trompez pas déjà. Vous ne trompez pas sur le fait que c'est absolument... Moi, je le vois comme un poème fluff, pas comme un recueil. C'est un texte qui a été écrit d'une traite. Ce n'est pas du tout un recueil. Et effectivement, moi, la procrastination, c'est quelque chose qui a toujours existé dans ma vie, que j'expliquais très mal. J'ai découvert récemment que j'avais un trouble de l'attention. Et encore plus récemment, que j'avais un trouble du spectre de l'autisme. En fait, c'est un combo... qui donne lieu à beaucoup de procrastination. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui fonctionne, qui peut vraiment me concentrer parfois très 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 longtemps sur des choses jusqu'à m'épuiser, encore une fois. Et puis, à un moment où des choses très simples me semblent complètement insurmontables. Et mon rapport au temps est très dilaté. Il est très... Dans le texte, je parle beaucoup de l'idée d'essayer de trouver une espèce de morning routine parfaite. Et en fait, pour moi, c'est impossible parce que je ne fonctionne que dans une espèce de décalage perpétuel entre du beaucoup et du rien. Et c'est vrai que c'est assez désarçonnant parce que je me retrouve dans des situations... Ce texte, je l'ai écrit, je venais de rentrer d'un semestre d'échange que j'avais passé à New York, où j'avais passé 4 mois, où je faisais de la littérature... Enfin, j'avais pris plus de matière que ce qu'il fallait. Donc, j'avais lu, je ne sais pas, 45 livres en un semestre. J'avais joué au théâtre. J'avais fait la fête dans des boîtes techno tous les week-ends. Et puis, c'était génial. Et puis, je rentre à Paris. Et puis, après, j'ai eu des problèmes de papier, parce que moi, j'ai toujours des problèmes de papier parce que je ne suis pas française.
Quoi? Et donc, qu'est-ce à dire? Ne dites rien.
Et donc, ça a fini. Il y a eu un espèce de crash suite à cette espèce de moment très, très joyeux et très trépidant. Et je pense que je suis toujours surprise de l'intensité du crash quand je vois combien j'ai pu fonctionner avant. Et je pense que ce texte, il est un peu là-dedans, sur cette espèce de décalage absolu entre ce que je peux renvoyer en société, ce que je peux vivre intérieurement et ces périodes qui sont très différentes les unes des autres.
On le sent bien, hein, c'est tout d'un coup ces moments de poids, de pesanteur, d'inertie. On sent presque votre mouvement ralenti, apesanti. Il n'y a rien. Enfin, dans le texte, on l'éprouve. Et moi, je l'ai lu d'une traite. Voilà, je l'ai envoyé d'une traite. On sort avec un sentiment... en fait, on vous a habité le temps de la lecture. Quoi. Opieux, ce n'est pas qu'un texte, vous y travaillez aussi la matière du texte. Comment ça se met en place, la mise en page d'un texte comme celui-ci chez vous ?
En fait, ce texte, moi, à l'origine, j'avais aucune intentionnalité d'écriture. C'est un texte que j'ai commencé à écrire, j'étais dans le métro sur mon téléphone et je prenais des notes. Et j'avais aucun objectif autre qu'écrire dans le métro parce que j'avais quelque chose à écrire. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était une très longue note. Donc j'ai copié-collé sur un document Word et ça faisait déjà 30 ou 40 pages. Donc c'était assez surprenant. Et donc j'ai commencé à retravailler cette matière-là sans trop savoir dans quelle direction ça allait. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un vrai fil conducteur dans le texte. Et ce que j'ai fait, moi ce que je fais toujours, c'est de lire à voix haute et de voir est-ce que le texte fonctionne dans le sens, est-ce que j'arrive à avoir une lecture fluide, est-ce que je me heurte à des moments où je ne peux plus être dans le flux de la lecture, est-ce qu'il y a des endroits où, à l'inverse, j'ai envie qu'il y ait un arrêt sur image Et c'est comme ça que j'ai travaillé le texte. Donc, il y a des endroits, effectivement, plastiques. Il y a un endroit où je dis qu'il y a des carrés qui deviennent des carrés
on
qui
deviennent...
Ouais. On en parle plus tard.
On est obligé d'en parler.
On est obligé d'en parler. Donc, il y a ces jeux-là sur la page. Il se fait naturellement. J'ai beaucoup de textes où il n'y a pas du tout ce jeu. Mais pour ce texte-là, ça me paraissait important.
Parce que cette lecture-là, puisqu'il y a cette géographie du texte avec des mots qui surgissent, des pages entières qui sont écrites, enfin, on sent... Le texte est comment dire, colle à l'émotion que vous êtes en train de nous faire passer. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment... des fois, quand on voit des dispositions, des agencements de texte, et on sent que c'est un peu artificiel, enfin, que ça n'a pas de... Là, ça colle vraiment au texte. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant. Mais entre la note sur un téléphone portable, donc on sait comment vous écrivez, entre la note sur un téléphone portable, et puis après vous confiez le texte à là, en l'occurrence, aux éditions de la Contre-Allée, y a un moment donné où il faut travailler avec l'éditeur pour dire ça me va, ça me va pas.
Honnêtement, sur ce texte, il y a eu peu de travail avec l'éditeur de modification. La seule question qu'on s'est posée, c'est de passer d'un document au format A4 au format du livre, et où là, ça a justifié certains. Par exemple, il y a certains blancs qui se sont enlevés ou qui se sont rajoutés parce que ça faisait sens, ça faisait pas sens. Il y a quelques jeux de posi spatiale qu'on a pu rajouter en imaginant les pages en regard l'une de l'autre, et donc en fait, là où j'avais imaginé par exemple deux phrases au milieu, on a pu en mettre une en haut, une en bas, créer une forme qui s'étalait sur une double page. On a aussi travaillé la question de la pagination. Il y a certaines pages où comme on les imaginait comme des tableaux de posi spatiale, on a enlevé la pagination pour la reprendre plus loin. Mais il y a eu très peu de... Disons que la question spatiale s'était déjà posée sur le manuscrit que j'avais envoyé à l'éditeur. Et il s'est juste agi de trouver comment l'adapter au format.
Alors, dans cette procrastination, il y a un jeu 2048 Tetris qui donne l'occasion d'une mise en page. Et c'est là où qui est-ce qui a décidé cette mise en page-là sur ce texte de 2048, enfin ce petit fragment, un tout petit fragment, mais qui est décliné en carré, comme dans un jeu de Tetris, répété à l'infini. Alors, c'est pas le même carré, c'est ça, parce que dans le Tetris, c'est pas les mêmes carrés, bien évidemment, jusqu'à la fin. Alors là, la fin, elle est dingue, quoi. Enfin, le final est dingue. Comment on arrive à ce résultat-là?
Mais en fait, ça, c'est moi, c'est-à-dire que le texte, une fois que je suis passée de la version sur téléphone, j'ai eu une version livre qui commençait à tenir la route. Et moi, je laisse, quand j'ai un objectif éditorial, les textes reposent très longtemps. C'est-à-dire que pendant un mois ou deux, je ne retouche pas du tout au manuscrit, je laisse là. Et une fois où il était resté comme ça pendant peut-être deux mois, quand je l'ai repris, j'ai eu cette idée que je n'ai pas trop questionnée. J'ai trouvé que ça faisait sens. Je me rappelle, je rentrais d'un festival de poésie, d'ailleurs, qui s'appelait Moins les murs, qui se passe à Ajetmo. J'avais un très, très long trajet en voiture. Je rentrais en Blablacar, il n'y avait plus de train. Et j'ai fait ça sur mon ordi, comme ça, pour essayer, voir ce que ça donnait. Et je trouvais que ça avait du sens et que c'était intéressant, parce que c'est toujours ça qui est important. Ce n'est pas juste faire un geste pour la beauté du geste, mais c'est parce que je trouvais que ça... Vous parliez tout à l'heure du fait que vous aviez senti que ça vous arrêtait, etc. Et c'est ça qui est important, c'est qu'un texte, en fait, quand le lecteur le prend, il ressent le sens du texte par la forme. Sinon, la forme est vaine. Si la forme est juste là pour être là, il faut qu'elle communique quelque chose du sens. Et je trouvais que ça communiquait quelque chose de cette espèce d'état d'arrêt, d'arrêt sur image qui peut durer très longtemps, et je voulais que le lecteur soit obligé de s'arrêter et qu'il soit trop plein d'un truc un peu absurde à la fin de ce passage-là.
Donc ce passage, il se termine par... alors, il n'y a pas de spoil dans votre récit, donc on peut dire tout ce qu'on lit, c'est pas un problème. Il se termine par une dernière page où tout est superposé, ça bavasse de partout, on n'arrive à rien lire du tout d'ailleurs, enfin si, on arrive à lire des carrés, mais je trouve ça... Ce cheminement, il est fou. Et en fait, on se rend compte, parce que ça, je l'avais déjà constaté avec votre éditeur, la Contre-Allée, qui est un éditeur magique, que moi, je considère comme magique, ça va jusque au colophon. Et le colophon, alors, est-ce que vous pouvez le décrire?
Le colophon, c'est un lit, en fait, qui est, oui. C'est vraiment génial. Il y a un autre livre, c'est un élan. Enfin, il y a vraiment toutes sortes de choses. C'est toujours formidable.
Ouais. Donc, le colophon, là, je fais mon malin parce que je dis le colophon, ta-ta-ta. En fait, le colophon, c'est la dernière page d'un livre où il y a des crédits. Et là, cette page-là, c'est un texte écrit, mais mis en page comme un lit, tout bonnement comme un lit, comme un pieu, et je trouve ça magique. Est-ce que vous accepteriez de nous lire un extrait de Au pieu ?
Le trou tourne autour du trou. Le trou tourne autour du trou. Ne pas se laisser tomber dans le trou, mais le trou tourne autour du trou. Se tenir. Tenir droit. Se tenir droit, droit dans ses bottes, droit dans ses docks qui tiennent les talons d'Achille. Pas que les talons. Tout le corps. Plein de bleu, plein de trous, doute de tout. Tenir, se tenir, tenir, droit, dos droit, ventre droit, menton droit, tête haute, regard serré, arrogance mesurée, on ne se laisse pas tomber. Marche martiale vers soi pour tenter d'être soi, tenir, je sais, tu sais, il aïe, on sait, nous savons, vous savez, il aïe, elle savent, on sait qui on est normalement à peu près, pas tous les jours, pas trop. Aujourd'hui, ce matin, c'est pas hyper clair, c'est rarement clair le matin pendant que les réveils sonnent, 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 ressonnent et qu'on voudrait rester là dans le lit plein de miettes alors qu'on s'était promis de ne plus rien manger au lit, mais le café sec, les deux doubles enfilés à jeun pour désengluer les yeux, écrasés de sommeil, les yeux irrités par les poils du chat qui est parfois là, les poils qui se collent au drap sans jamais vouloir disparaître et qui collent les yeux qu'il faut décoller à coup de café pas sec parce que le café sec donne des erreurs d'estomac, alors il ne faut pas le boire sec, alors on prend une tartine, un petit bol de muesli.
Merci pour cette lecture et on va faire une pause musicale.
Mon cœur s'est brisé aux parois des mots oubliés, accueillis en terre brûlante, paroles mortes de mort lente. Des montagnes, mon cœur a saigné de tant de flèches bien aiguisées, d'armes crachant, des balles perdues, tuant hommes, femmes et enfants nus. Des montagnes, mon cœur. Des montagnes, mon cœur. J'escalade de face de profil, sur l'esplanade je me faufile. Découvrant l'Éden sans Adam sous pleine lune, réconciliant la pomme assise, la vie amère, celle que l'on mange avec la peau Golden Boy des cimetières, moine zen et au plateau. Mon cœur a cherché des rivières calmes où se baigner. L'écho des chants de guerre perdus, bruit lourd de silence entendu. Des montagnes, mon cœur évadé, des fleurs de l'amour envolées pour nos ancêtres éternels, porte-bouquet de nuit si belle. Mon cœur, des montagnes, mon cœur. J'escalade de face de profil, sur l'esplanade je me faufile, découvrant l'Éden sans Adam sous pleine lune, réconciliant la pomme acide, la vie amère, celle que l'on mange avec la peau Golden Boy des cimetières. Moi le zen, des hauts plateaux. Les montagnes, mon cœur. Les montagnes, mon cœur.
Nous venons d'écouter Jean Fiverniaud qui a chanté « Des montagnes » et vous êtes bien sur Radio G, fréquence 101.5, vous écoutez « Entre les pages » et vous avez bien de la chance. Dans la première partie, vous avez pu suivre une conversation avec Selima Attala-Chetaoui et maintenant, c'est une rencontre avec Béatrice Machet que je vous propose. Bonjour Béatrice Machet.
Bonjour Luc.
Poète, traductrice, conférencière, enseignante, spécialiste de la poésie contemporaine des Indiens d'Amérique du Nord. Voilà une bien longue carte visite. Vous aussi, quel est le fil qui relie toutes ces thématiques ?
La poésie.
Bon, ça y est, réponse faite. Merci d'être venue. y a donc la poésie. Ça a commencé à quel moment cet intérêt pour la poésie ?
Ça a commencé quand j'ai compris que je ne serais jamais vraiment danseuse professionnelle. J'ai fait de la danse assez longtemps, mais j'ai compris que si je voulais continuer, il fallait que j'obéisse à des chorégraphes, que j'exécute, à moins de devenir chorégraphe moi-même. Mais j'avais commencé déjà à faire pas mal de petites choses pour amuser mes camarades au collège, etc. Et ils trouvaient ça très bien. Et mes professeurs aussi trouvaient ça très bien. Donc, j'ai poursuivi un petit peu l'expérience d'écrire. Et à travers cette expérience d'écrire, je me suis dit, oui, mais quand j'écris, je danse. Donc, je ne perds rien. J'arrête la danse et j'écris. Voilà, parce qu'il y a une question de rythme, il y a une question de souffle, hein, on comprend assez rapidement. Et que, pour moi, l'écriture passe par le corps. Donc, voilà. Donc, ça vient de loin.
Ça vient de
l'enfance.
Comme quoi, la rébellion a du bon, puisqu'elle permet de prendre la contre-allée.
Hein, oui, oui, oui.
Et le slogan de la maison d'édition La Contre-allée, c'est « Délaissant les grands axes, j'ai pris la contre-allée ».
C'est Bachung.
Et c'est le slogan de cette maison d'édition. Donc, la compréhension que, en fait, on peut s'épanouir, qu'on peut pas être forcément dans, on n'est pas obligé d'être soumis comme ça à des illusions et qu'on peut très facilement s'en affranchir. Ça a commencé au collège. Alors, moi, je ne vous connaissais pas, mais j'avais des raisons de ne pas vous connaître puisque vous venez d'arriver en Anjou. Vous venez du Sud. Qu'est-ce qui fait qu'on vient s'installer à Maulévrier ? Maulévrier ?
Alors, Maulévrier, c'est...
Je le dis deux fois, hein, Maulévrier.
C'est un charmant village,
oui,
qui se trouve à la confluence ou à la frontière entre la Vendée, les Deux-Sèvres et le Maine-et-Loire. Donc. Pourquoi ? Parce que j'ai de la famille dans cette région nord-ouest, disons, pour faire large. Mais surtout parce que un rêve que j'avais depuis longtemps et qui s'est réalisé, c'est de pouvoir créer un petit centre culturel. Et à Maulévrier, j'ai l'espace pour le faire. Donc on a créé un petit centre culturel avec mon mari pour accueillir aussi bien des séminaires de réflexion universitaire que des lectures de poésie, des performances, des expositions, des petits spectacles. Voilà, donc on en est au tout début, on est au balbutiement, mais voilà, ça va se poursuivre.
Ça s'appelle comment ce lieu ?
Alors le lieu s'appelle le château de la Frogerie.
La rébellion, l'utopie, c'est la totale chez vous, hein ?
Ah ben moi ça fait longtemps que ça dure et je pense que c'est la légende familiale en tout cas qui dit que je n'ai pas dit papa ou maman mon premier mot, mais la première chose que j'ai dite c'est pas juste.
Bon, voilà une rencontre qui commence bien. Vous avez publié un recueil aux éditions Lanskin qui s'intitule, alors très belle maison d'édition aussi, hein, qui s'intitule Rafale. Oui. Ce sont les rafales du vent.
Oui.
De quel vent s'agit-il ?
Le vent qui souffle sur le lac Michigan aux États-Unis. Mmh. Alors le lac Michigan, pour moi...
Donc c'est un des cinq grands lacs.
Hein. Un des cinq grands lacs, voilà. Donc au nord des États-Unis, mmh. Oui. Et c'est un personnage, presque une divinité, si on est un petit peu animiste. Et ben voilà, le vent vient du nord, souvent en hiver. Pourquoi le lac Michigan ? Parce que c'est là que vivaient dispersés hein, autour du lac plusieurs tribu de la grande nation Anishinaabe. Et au sud vivaient les Potawatomi. Alors, bon, comme je suis, vous l'avez dit, imprégnée des cultures amérindiennes, que je travaille avec des auteurs amérindiens, que je vais régulièrement aux États-Unis. Pour moi, les États-Unis, avant tout, c'est cette présence-là qu'on a voulu effacer, mais qu'elle est encore très, très forte. Et je voulais rendre hommage à ces premiers habitants, rendre compte de l'histoire, rendre compte d'une vérité qu'on a voulu cacher, ensevelir, nier, mais aussi rendre compte de ce qui les habite et les traverse, c'est-à-dire une pensée, une présence au monde, une façon de se relier au cosmos, une façon de fine, vraiment fine, de savoir vraiment ce que c'est que le phénomène du vivant et remettre l'humain à sa vraie place, c'est-à-dire une place toute humble, de participant et non pas de propriétaire, de solidarité plutôt que de domination. Voilà, toutes ces choses-là, j'ai voulu les faire passer. Et pour que ça passe, il faut que ce soit porté, et ça se porte par un souffle, le vent. Et savoir aussi que le vent, dans la majorité des cultures amérindiennes, c'est le souffle de vie, en réalité. C'est ce qu'on échange en permanence, qui vient de l'extérieur et que nous absorbons, que nous faisons circuler à l'intérieur et que nous restituons au dehors, pour qu'il soit partagé et de nouveau absorbé, etc. Et voilà. Et ça, pour moi, c'est très important. À l'intérieur du corps, on a le sang. À l'extérieur du corps, on a les vents pour lier.
Alors, en lisant ce recueil, en le parcourant, on se rend compte qu'il n'y a pas le vent. Il y a des vents qui portent des noms, une infinité de noms. Enfin, et dans ce recueil, les poèmes sont juste numérotés chronologiquement. Pourquoi cette impossibilité de titrer ces poèmes ?
Parce que c'est impersonnel, parce que ça vient de très loin et que c'est la voie de l'infini en quelque sorte. Donc non, il n'y a pas à mettre une étiquette, il n'y a pas à labeller, il n'y a pas à fixer. Justement, ça voyage, donc on ne fixe pas, et c'est juste des moments, des sensations, des passages.
Alors, pour être aussi imprégné que vous l'êtes de ces cultures-là, alors vous m'avez repris parce que j'ai utilisé une fois le terme « peuple premier », je crois.
Mais... Ça, c'est le terme qu'on utilise voilà. Au Canada, mais ouais. il est, ça va.
Ouais. Bon,
c'est
ça
pas
va.
Une insulte. Non,
donc,
non.
Donc je peux encore...
Vous pouvez. Autorisation accordée.
Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on rencontre ces espaces, ces populations, et que le déclenchement s'opère ?
Alors, le déclenchement, il est bien antérieur
oui.
à la réelle rencontre en chair et en os.
Mm-hmm.
Ça vient, là encore une fois, de l'enfance. J'ai à peu près 8 ans et demi, 9 ans. Et tous les dimanches, avec mes copains, mes voisins, on regarde la télévision. Et ce sont des westerns qui sont diffusés à ce moment-là. Mes copains, mes copines adorent les westerns. Et moi, je reste là devant et je me dis, ou bien il y a quelque chose qui ne va pas chez eux, ou bien moi, ça ne va pas du tout non plus. Alors, c'est quoi l'histoire ? Parce que j'avais vraiment conscience que ce n'était qu'un tissu de mensonges, que des caricatures. Et on dit rusé comme un Sioux. Là, les Sioux, ils ne savaient même pas se cacher derrière un buisson pour éviter les balles, quoi, je veux dire. Donc, non. C'est vraiment... Enfin, pour moi, c'est une insulte à l'intelligence, déjà, pour commencer. Et ensuite, qu'est-ce que ça cache ?
Mmh.
Et donc, j'ai... comme ça, découvert toute l'histoire de la colonisation, qui est l'histoire d'un génocide, en réalité. Le plus grand génocide jamais enregistré, je pense, jusqu'à nos jours, et je ne veux pas faire offense aux autres génocides arméniens, juifs, etc., mais voilà, à cette échelle-là, c'est 75 millions d'Indiens qui ont été massacrés quand même. Voilà. Et à partir de cette prise de conscience, j'ai cherché, j'ai commencé à maîtriser l'espagnol et l'anglais. Donc, j'ai cherché des textes écrits par les Indiens eux-mêmes, depuis le XVIIe siècle jusqu'à nos jours. Et puis, quand j'ai commencé à me sentir assez légitime, j'ai commencé à échanger, proposer mon projet de traduction. Et certains auteurs ont senti l'authenticité de ma demande. Ils ont compris qu'il n'y aurait pas d'appropriation culturelle, que je resterais fidèle. Ils ont compris aussi que je m'étais initiée à certaines de leurs langues, donc je pouvais aussi véhiculer quelque chose à travers le français qui n'était pas de la simple traduction, mais l'esprit aussi de leur langue. Bon voilà, ça s'est fait comme ça. Et c'est un long parcours, mais c'est un enrichissement et j'ai l'impression d'avoir élargi ma vie et mon champ de conscience et qu'il y a désormais de très nombreuses vies dans ma seule vie.
Alors, juste pour compléter, vous parlez donc de cette culture américaine avec effectivement qui est concentrée au travers des films de western. Moi, je renvoie toujours à un livre. Quelle prétention! Je renvoie à un livre souvent qui s'appelle « La dernière frontière » de Howard Fast, un auteur américain magnifique, et qui raconte comment une tribu va être massacrée. Enfin, c'est un roman historique, hein. C'est un roman magnifique. Il faut lire Howard Fast, sinon on n'a pas lu. Voilà.
Et il y en a beaucoup d'autres. Il faut lire Tommy Orange.
Oui, bien sûr. Donc... vous nous racontez la conscience.
Oui.
Mais un jour, il faut prendre un billet d'avion pour y aller.
Oh, ça, c'est pas très difficile, si on a les moyens.
Oui. C'était quel jour, c'était quand, et c'était pour atterrir où?
Alors, c'est un concours de circonstances, et c'est aussi là encore un trajet de vie, parce que j'ai élevé deux enfants quasiment toute seule. Et quand ils ont été autonomes, indépendants, j'ai pu vraiment partir. Et puisque je faisais un petit peu des vacations dans certains milieux universitaires, que j'avais été embauchée pour des creative writing courses, donc
des ateliers de création culture, littéraire. Hein.
Ouais. Ouais. J'ai atterri à Nashville, dans le Tennessee.
Bah oui.
Alors donc ça c'est chez les Cherokee.
Ah, généralement, on a une autre référence pour Nashville, mais bon.
Oui, oui, mais néanmoins, oui, bien sûr. Il y a tous les studios d'enregistrement. Et
ben oui.
Music City. Mais néanmoins, pour moi, c'est chez les Cherokee, d'abord. Voilà, et donc j'ai fait mes interventions à l'université. Et puis après, je suis allée en pays de Cherokee voir New Echota, m'imprégner de... Voilà, la piste des larmes, toute l'histoire. Et puis de fil en aiguille, après, tout un tas d'autres rencontres.
Alors, il y a ce recueil hein, de textes qui s'appelle Raphaël. Il n'y a pas que ça, vous avez écrit d'autres textes. Hein. Alors, il y en a un qui s'appelle Signer No One, celle du nom. Il y en a un autre qui s'appelle Tourner petit précis de rotation. Ces deux textes, deux ouvrages ont un point commun, c'est leur référence affirmée. Pour No One, c'est au poète américain Edward Estlin Cummings, et pour le petit précis de rotation, c'est du côté de Cioran. La référence affirmée, c'est dire qu'on ne vient jamais de nulle part.
Alors, il y a tout, comme vous le savez, un questionnement qui vient de très loin déjà, au milieu du XXe siècle. Qu'est-ce qu'un auteur, déjà, pour commencer? Ensuite, d'où écrit-on? Et qu'est-ce qui nous traverse? Et qui est-on? Moi, je suis du côté des Amérindiens et je ne suis jamais toute seule. Je suis jamais. Enfin, le moi, pour moi, n'existe pas. Donc, cette. Tout un ensemble de gens avec moi, derrière moi, ancêtres, présents, contemporains, ou même personnes à venir, parce que je pense beaucoup aux prochaines générations. Et j'essaie de me brancher sur leur voix parce que je pense que écrire, c'est pas s'affirmer moi. L'égocentrisme, le narcissisme, ça fait tellement de mal au monde. Donc, je préfère, oui, me mettre au service, en quelque sorte, et développer et sortir toutes mes antennes. Et puis, j'aime bien répondre comme ça aux sollicitations d'un auteur, d'un texte, d'une œuvre. Donc, E.E. Cummings, c'est plutôt taquin, parce que c'est une réponse féministe à un poème de E.E. Cummings. Et tourner, c'est vraiment comme déconstruire la folie du monde actuel.
Comme pour Salima, j'aimerais que vous nous lisiez un texte. De quel livre vous allez extraire ce texte, cette lecture ?
Ben, puisqu'on vient de parler de tournée, je vais lire un extrait de Tournée, petit précis de rotation, édité aux éditions Tarmac, qui est une maison d'édition assez militante, je dirais. Mais comme la Contre-Allée, d'ailleurs.
Oui. Pourquoi assez militante ? Bon sang, une maison militante, quoi. Enfin, voilà, ne nous voilons pas la face.
Alors, c'est l'extrait numéro 6. Tournée. Le dos à l'étrange, co-erré, cherche sa co-errance. Aller plus vite que pendant, et pour cela, on tourne. Les pieds à fond sur les pédales, dans la semoule du débordement. En effet, effet centrifuge garanti, la force du monde contenue au cœur fragile de l'humain, on tourne. Les langues encerclent le monde, disent les distances dans la proximité d'écrire comme avancer à reculons. On roule sa berlue le long d'une aire optique. Sisyphe, heureux de sa cécité clairvoyante, on tourne le dos au suicide. Parce que vivre appelle et que la mort bien assez tôt. On dit sésame, on dit yin-yang, des verbes germer et lover. On dit, et sa virgule descend mêlée, répandue sur les neiges de la noble indifférence. L'horizon agité. Un oripeau jeté aux yeux pour faire oublier que centre, partout et point de mire jauni. Rond point, rond d'arc-en-ciel, irisation, le dos aux bulles, aux virus, aux poisons. On souffle en cercle, tous ensemble, 1, 2, 3 degrés. L'escalade des températures, le mercure à la fièvre, et ça tourne les têtes. On dit canicule, on dit noyé. Climatiques ou fuyant les guerres, comme quoi entendre n'est pas comprendre.
Merci. Et une deuxième pause musicale.
Dis-le moi, où il a foutu toutes les photos, celles du frigo. Je te comprends plus, tu l'as aidé à tout ranger. Putain, t'es con, t'as pris la peine de faire des cartons. C'était les miennes. T'avais raison.
Faut pas que tu te craches.
Moi j'ai déjà fait.
J't'ai oublié. Y'a déjà un bail. Faut pas que tu te craches. C'est peut-être pas vrai. J't'ai oublié. Et quoi te dire, ça me saisit encore la nuit. Pas faute de lire toutes les histoires, celles du grenier. La jolie place que tu as prise et puis laissée. Descendre encore et remonter. Le temps m'a fait et apprécié, lui et l'été.
Faut pas que tu craches. Moi j'ai déjà fait. J't'ai oublié. Y'a partie de face. C'est peut-être pareil. Je t'ai oublié. Ne faut pas. Faut partir de grâce. Oh. Moi j'ai déjà fait.
C'était Eva Darle et Chahut qui ont chanté Crash. Alors là, ça va parler à Salima Atalachetaoui. Je fais référence à la première, à sa première intervention. Et quelle chance, c'est encore Entre les Pages, l'émission qui parle encore du monde des livres en Anjou. Et bien sûr, ce n'est que sur Radio G. Je viens d'échanger dans les deux premières parties de l'émission avec Selim et avec Béatrice, toutes deux poètes. Mais dans cette pratique qu'est la poésie, toutes deux, vous y ajoutez la performance, chacune à votre manière. Vous, Selima, sur scène. Vous, Béatrice, alors je mets dans le podcast, mais peut-être que je suis un peu réducteur là. Ça vous apporte quoi, c'est de dépasser le livre, de sortir du livre, Salima.
Moi, je pense que c'est... Déjà, il y a une dimension très orale, comme je le disais tout à l'heure, qui s'est imposée très naturellement à moi. Il y a vraiment cette question-là du souffle et de la voix qui est même avant même que moi j'écrive et que je lise mes textes. J'ai toujours aimé dire la poésie à voix haute. J'ai grandi dans une famille qui était très religieuse, pratiquante, qui lisait beaucoup le Coran à voix haute. Donc ce rapport à la lecture et aux mots, il est toujours passé par le corps et la voix pour moi. Et puis, je pense aussi que c'est quelque chose, aujourd'hui, quand vous allez à Paris, dans certains bars, parfois, il y a des lectures de poésie qui drainent un monde fou, notamment un public très jeune, parfois. Et je pense que la poésie, ça, quand elle est entendue, elle peut être un véhicule pour des personnes qui, peut-être, pour plein de raisons, se sentent moins proches des livres. Et moi, je travaille beaucoup aussi avec la musique électronique pour ça, parce que ça emprunte à d'autres codes qui sont peut-être un peu moins menaçants pour une personne qui ne se sentirait pas à l'aise pour entrer dans une librairie, une médiathèque ou un musée. Mais avec la musique électronique, peut-être que c'est un peu plus... ça ressemble à des choses qu'on connaît et on peut toucher un public autre.
Vous, Béatrice, alors j'ai dit podcast, peut-être, j'ai dit que j'étais peut-être réducteur, donc je fais tout de suite le mea culpa, comme ça j'évite tout. Ça vous apporte quoi ? De sortir, vous aussi, du papier, de ne plus vous contenter du papier.
Alors, en début d'émission, j'ai dit, quand j'ai pris la parole, j'ai dit que je venais de l'univers de la danse. Et la danse contemporaine en France a essayé d'être au carrefour de toutes les disciplines artistiques. Donc pour moi, c'était aussi très naturel de performer, d'être sur scène. J'ai fait des performances avec des danseurs, j'ai fait des performances avec des peintres, j'ai fait des performances avec des musiciens, j'ai fait etc. Et j'appartiens et je fais partie d'un collectif qui s'appelle Écrit Studio et on bidouille des pièces sonores qui sont diffusées à la radio, qui sont performées sur scène, dans des festivals, dans des médiathèques, etc. Et ce que ça apporte, c'est que justement à l'heure où la technologie est suffisamment sophistiquée, on puisse justement se faire rencontrer toutes ces disciplines artistiques-là. Je pense que c'est vraiment intéressant. Ça fait du bien. C'est comme apprendre toutes sortes de langues. Ça fait du bien. Ça autorise, ça permet d'autres expériences que celles du livre. Donc, quand je travaille l'écriture pour le livre, y a sa forme et sa mise en scène sur la page du livre, mais j'adapte toujours pour l'oral, pour la scène, des passages qui deviennent pièces sonores. Et ce que ça apporte, eh bien, comme le disait Diane Burns, une autrice Anishinaabe, elle disait, c'est mon arrière-pays, elle disait, je ne suis poète que sur scène. Et c'est pas forcément le mot poète que je revendique, mais je ne suis réellement créatrice et passeuse que sur scène.
Alors moi j'ai écouté vous m'avez fait parvenir des pièces, des réalisations qui sont totalement folles, hein, totalement dingues. Enfin quand on entend l'étagement des sons, les jeux avec les voix, c'est impressionnant. Et tout d'un coup, en les écoutant, on perçoit l'autre dimension possible du texte. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'ouverture par le son et par la mise en onde, parce qu'il y a quand même un travail de mise en onde qui est vraiment très très fort, on perçoit de nouveaux possibles. Vous, Salima, vous avez... vous allez sur scène et vous y allez aussi avec des musiciens. Comment vous avez choisi les musiciens avec lesquels vous travaillez?
En fait, on s'est rencontrés sur scène. Moi, il y a eu un moment où je faisais beaucoup de tentatives d'improvisation avec des musiciens, que je fais toujours d'ailleurs, où je rencontrais les musiciens sur scène et on partageait 5 minutes, 10 minutes ensemble. Et en fait, il y a un jour, avec Paul et Adrien, on a été programmés sur un événement d'art contemporain où moi, je faisais une lecture, une performance pendant le vernissage de l'exposition et eux clôturaient le set avec un set de DJ. Et moi, j'avais proposé, moi, je leur ai dit, moi, j'ai toujours voulu essayer de lire de la poésie sur de la musique électronique. Est-ce qu'on n'essayerait pas ça ensemble? Et ils étaient partants. Et donc, on essaye. Et finalement, ça se passe. Il n'y avait plus de micro qui marchait plus. Donc, moi, j'ai hurlé comme une vendeuse de poissons dans cette salle. Mais en fait, on a trouvé ça super. On a adoré l'expérience.
De hurler comme une
marchande de poissons. Non, mais je veux dire, cette espèce de spontanéité absolue et cette rencontre-là qui s'est faite, la simplicité avec laquelle ça a quand même pu se faire malgré l'absence de technique, on a trouvé ça super. Et en fait, on avait des dates, et puis moi, je les ai invités sur mes dates, eux, ils m'ont invité sur mes dates, et en un mois, on avait fait, je sais pas, 7 ou 8 dates ensemble. Et en fait, c'était il y a 4 ans maintenant. Et donc, depuis 4 ans, au début, on a travaillé sous forme de DJ set où eux choisissaient des sets d'autres musiciens et les jouaient. Et moi, je disais mes textes sur une forme plus ou moins improvisée. Et là, depuis à peu près 2 ans, on travaille sur un projet musical un peu plus précis où maintenant, c'est Paul et Adrien qui composent des morceaux pour mes textes. Et on commence à le sortir, comme je disais tout à l'heure. Donc, on a sorti un single qui s'appelle Le Monde qu'on aime, qui est dispo sur toutes les plateformes. Et on travaille à un EP qui sortira à l'automne.
À la fin de l'intervention de Béatrice... pendant qu'on passait ce titre, vous êtes retourné vers Béatrice et vous avez dit « J'ai beaucoup aimé votre manière de parler ». Qu'est-ce qui vous a séduit, en fait, dans la parole de Béatrice ?
Moi, je trouve ça toujours très beau quand quelqu'un est connecté à quelque chose dont on sent que c'est un peu plus grand que lui. Moi-même, j'ai un rapport... J'ai grandi, comme je disais, dans une famille très religieuse. Je ne suis pas du tout croyante, mais je suis quelqu'un de très spirituel. Et je pense que la poésie, pour moi, c'est quelque chose qui me connecte à quelque chose que je ne comprends pas et que j'accepte de ne pas comprendre. Et moi, je dis toujours que la scène, pour moi, c'est vital parce que c'est un endroit où je suis présente à moi-même. Parce qu'avec toutes mes difficultés attentionnelles, c'est très dur pour moi d'être présente à moi-même. Mais sur scène, je suis obligée de l'être. Et plus je le suis, plus je sens que je suis connectée au public. Et en fait, finalement, la poésie, je trouve que c'est ça que ça amène quand les gens essaient de la saisir par le sens et par vraiment ce que veulent dire les mots. Je pense qu'on passe à côté. C'est vraiment une expérience de transmission qui est très émotionnelle, très affective, et où le sens parfois ne nous vient que beaucoup plus tard et il passe par ces émotions qu'on a ressenties. Et j'ai senti ça quand Béatrice parlait tout à l'heure.
Vous, Béatrice, vous êtes allée voir... Salima sur scène à Nantes, hein, on en a parlé. Ça ouvre quelle porte pour vous l'écriture de Salima?
Alors d'abord il y a l'implication, l'engagement, ce monde queer comme on dit. Je trouve ça formidable que des nouvelles générations, parce que bon, je pourrais être sa mère. Hein,
Non.
J'avoue, je commence à être une vieille dame.
Mais non, vous êtes d'une jeunesse impressionnante.
Oui, dans la tête et encore dans le corps, encore bien énergie, mais bon. Non, mais c'est ça, c'est l'ouverture des consciences actuelles. Chez les Amérindiens, on n'a pas ce problème. Il y a 5 genres d'emblée, c'est accepté, c'est naturel, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, qu'on en soit là encore chez nous, avec ce binaire vraiment redoutable qui fait du mal au féminin, qui fait du mal au masculin, qui enferme dans des stéréotypes et qui rend malheureux tout le monde parce qu'on n'arrive pas à être soi-même. Voilà, faut se réveiller, quoi. Et je sens, moi, donc il y avait sur scène, il y avait Selim, et il y avait aussi Meg Lavec. Ça, c'est pour moi des jeunes qui prennent la relève derrière moi et je suis ravie de leur passer le témoin. Ça me fait plaisir, mais vraiment plaisir, de sentir qu'il y a ces énergies-là, ces consciences-là. Et puis, ce n'est pas des revendications vaines pour revendiquer. Ça a du sens. Ça rend le monde meilleur. ça va dans le bon sens. Et voilà, donc ça c'est vraiment important pour moi, oui.
Il nous reste une minute avant la fin de l'émission. Une minute, vous travaillez, alors vous avez 30 secondes chacune. Béatrice, vous travaillez sur quoi en ce moment ?
Je travaille sur plusieurs manuscrits, dont un est consacré à l'œuvre de Ethel Adnan, une femme d'origine libanaise qui a enseigné aux États-Unis, qui était philosophe, peintre, et qui a fini ses jours en France, d'abord à Paris, puis en Bretagne. Et c'est une femme merveilleuse, d'une intelligence et d'une lucidité formidables. Et là encore, j'ai eu l'élan et l'envie de répondre à son œuvre, à ses réflexions.
Alors, je mettrai ça sur la page du site, donc je collecterai les infos après, hein, bien sûr. Hein. Vous, Selima, vous travaillez sur quoi dans cette résidence à la maison Julien Gracq, quand même, c'est un privilège.
C'est un grand privilège, j'ai beaucoup de chance. En fait, je travaille sur un projet de peut-être récit ou autofiction. Moi, le mot que je préfère, c'est creative nonfiction. C'est une écriture tirée d'une expérience personnelle, mais qui tisse un récit. Et donc c'est sur la question moi de l'endroit que j'ai quitté, donc la Tunisie, de la France où je vis depuis un certain temps, et de tout ce que ça engage, cette question-là de la migration en termes d'identité, en termes de ce qu'on laisse derrière soi, ce qu'on découvre, et puis cette espèce d'espace qui reste toujours et qu'on a du mal à saisir et à dépasser.
Eh bien, merci pour cette concision. Là, c'est fantastique. Merci à toutes les deux. Mais entre les pages, l'émission qui parle encore du monde des livres en Anjou, c'est terminé. Avant d'éteindre les lumières du studio, un petit coup d'œil sur l'agenda. Vous rappelez de toute urgence le festival L'Entre Autres, organisé par la librairie Myriagone. C'est du 16 au 20 juin. Toutes les informations sur les riches programmes concoctés par Andreas sur le site de la librairie, et il n'est pas trop tard pour contribuer à la cagnotte qu'il a mise en place. Vous rappelez aussi que le vendredi 19 juin, à partir de 16h, la MITI et le repère des héros accueillent Marguerite Boutrol, Dany Collateral, c'est pas facile ça, hein, Damien Geffroy et Benoît Veillard. Et puis le 27 juin, c'est un samedi à la maison Julien Gracq, il y aura une lecture de Mathilde Douaisy, que l'on a accueilli dans l'émission, autour de sa résidence Nouveaux Imaginaires dans les Mauges. Ensuite, une lecture rencontre avec Dominique A, rien moins que ça. Et enfin, un banquet littéraire avec Selima et la cuisine de Rachel Carroguet. Et aussi, le 27 et 28, ce sera Rural Livre, organisé par les éditions Le Petit Pavé, et ce sera à Saint-Saturnin-sur-Loire. Au cours de l'émission, vous avez entendu Jean-Philippe Vergniaud qui a chanté Des Montagnes et Des Varals qui a chanté Crash. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les Pages sur le site de Radio G à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera la semaine prochaine, déjà le mercredi 17 juin à 17h. Et je sais que vous allez être triste parce qu'au bout de 179 émissions, je ferme la porte de Entre les Pages. Donc, la semaine prochaine, une émission très spéciale. Elle durera 2 heures et beaucoup de monde sera, puisqu'il n'y a que du monde. Autour des micros, il y aura Sébastien Rousselet, Valentin Dedon, Titi Robin, Grise de Grise Cornac, Colline Linder et beaucoup d'autres encore. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI et puis le magazine Topette. Avant de conclure, petite rectification par rapport aux deux émissions précédentes. Je n'ai pas assez cité le technicien Bruno, animateur par ailleurs de l'émission Hervest, qui est venu me donner un sérieux coup de main. Privé de mes yeux pendant plusieurs semaines, je ne pouvais assurer cette partie très délicate. Alors, un grand merci à toi Bruno, tu as été brillant. Pour clore ce 178e opus, il faut la formule magique. Je vous souhaite une excellente soirée. Et maintenant,
in 500 meters, go straight, and then go straight.
Générique.